Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le mathématicien et député La République En Marche, Cédric Villani, présente aujourd'hui une série de mesures pour l'apprentissage des mathématiques. Précision de Catherine Pétillon dans un instant. L'actualité à l'étranger, on reviendra sur l'accès de fièvre du week-end au Proche-Orient, avec ce qui est considéré comme la première confrontation ouverte entre Israël et l'Iran sur le théâtre syrien. On en parle avec notre correspondant Étienne Monin. L'administration Trump qui esquisse aujourd'hui les grandes lignes d'un plan d'investissement, 1500 milliards de dollars pour les infrastructures aux États-Unis. Analyse d'Annabelle Grenier et puis l'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, jugé en appel à partir de cet après-midi pour avoir dissimulé pendant des années des comptes à l'étranger. Il avait été condamné déjà à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment. C'était en 2016. Présentation donc de ce procès d'appel maintenant avec Antoine Maret dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Gesbert.
La liberté retrouvée de Carlo Strenger, le philosophe et essayiste israélien, est notre invité. Il nous met en garde contre notre passivité, contre la perte de sens aussi de nos sociétés occidentales. Il faut retrouver la bonne direction, celle d'une responsabilité citoyenne qui nous permettrait de vivre et d'occuper pleinement ce concept de liberté.
Comment améliorer le niveau en mathématiques des élèves français? C'est un mathématicien, Cédric Villani, par ailleurs député La République En Marche de l'Essonne, qui présente donc aujourd'hui ces mesures pour l'apprentissage de cette discipline. Rapport qui fait suite à une mission qui lui a été confiée cet automne par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, ainsi qu'à Charles Torossian, qui est inspecteur général de l'Éducation nationale. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
On va voir toutes ces mesures. Un mot peut-être sur l'état d'esprit d'abord qui a présidé à ce rapport. Cédric Villani en parlait ce matin, c'était sur la chaîne parlementaire.
La mathématique est une discipline anxiogène, une discipline qui fait peur, une discipline qui interroge. C'est pas si étonnant parce que c'est une discipline délicate, dont on peine déjà à comprendre le but, l'intérêt, et à laquelle on a confié de plus en plus de rôles à l'heure où la mathématique joue un rôle important aujourd'hui, non seulement pour se débrouiller dans la vie de tous les jours avec certains chiffres, certains nombres, qui peuvent être ceux de vos impôts, ceux de vos comptes ou qui sait quoi, et en même temps, une discipline qui joue un rôle clé dans l'économie d'aujourd'hui, à tel point que les entreprises nous demandent sans arrêt « Envoyez-nous davantage de mathématiciens, d'informaticiens, d'algorithmiciens, on en a besoin. » Une des conclusions de notre rapport, de l'étude que nous avons menée avec Charles Torossian et qui a été dure pour nous, c'est de réaliser à quel point l'encadrement humain est déficient en la matière. Très peu des enseignants des écoles se sentent à l'aise en mathématiques, et c'est normal au vu de leur parcours et de leur formation. Très peu des inspecteurs et des conseillers pédagogiques aussi. Une priorité, c'est de recruter, un peu partout en France, à l'échelle des circonscriptions, qui sont les unités de base pour l'enseignement primaire, des référents mathématiques qui pourront accompagner sur place les enseignants.
Cédric Villani, donc, c'était sur LCP dans cette perspective, le document qui liste donc 21 mesures pour améliorer le niveau en mathématiques des élèves français parle notamment de renforcer le poids des maths dans la formation des instituteurs, mais aussi encourager la manipulation d'objets à l'école et proposer aussi aux lycéens un module de réconciliation. Catherine Pétillon, vous avez lu pour nous donc ce rapport.
Et pour donner un nouvel élan aux mathématiques, les auteurs s'inspirent des pratiques et expériences qu'ils estiment les plus concluantes, à savoir des pédagogies actives type Freinet ou Montessori, et des exemples à l'étranger. Le rapport cite ainsi la Finlande des années 70, Singapour dans les années 80 ou encore l'Allemagne dans les années 2000. Et en lançant cette mission, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait d'ailleurs lui-même cité le modèle de Singapour où les performances des élèves sont montées en flèche en 20 ans, ou du moins ont permis au pays de prendre la tête des classements internationaux. La méthode dite de Singapour est en fait une synthèse de pratiques didactiques et pédagogiques, et toutes ces approches auxquelles le rapport fait référence s'appuient sur l'essence et l'intuition de l'enfant, avec l'idée que ce dernier doit être guidé de manière explicite mais non dirigiste. Les auteurs en tirent une série de propositions qui ont en commun de proposer de partir du concret pour aller vers l'abstrait et de développer un apprentissage des mathématiques fondé dès le plus jeune âge sur une sorte de triptyque, la manipulation et l'expérimentation, la verbalisation puis l'abstraction.
Alors comment tout cela se décline-t-il dans les propositions du rapport?
Alors les auteurs estiment qu'il faut changer la façon dont on approche les nombres, il faut distinguer tenir compte du rôle de l'affectivité dans les apprentissages. Ici, cela veut dire autoriser l'erreur et réhabiliter le plaisir du jeu. pour que, je cite, les nombres deviennent les amis des enfants. Les auteurs saluent les enseignements qui utilisent les jeux, énigmes et défis. Ils proposent aussi que toutes les écoles bénéficient d'un équipement de base accompagné de tutoriels favorisant les manipulations d'objets réels ou virtuels. Autre proposition, redonner leur place au cours structuré et à sa trace écrite, développer les automatismes de calcul grâce à ce que les auteurs appellent des pratiques rituelles, comme le calcul mental ou des répétitions, ou encore cultiver le sens des quatre opérations dès le CP, autrement dit, apprendre en même temps les nombres et les opérations. Enfin, on entendait Cédric Villani évoquer un encadrement parfois en difficulté, et pour cela, la mission insiste sur la nécessité de renforcer la formation des enseignants. Dans le primaire, ils viennent le plus souvent des filières littéraires, et pour ces professeurs des écoles, le rapport préconise une formation initiale démarrant à Bac plus 1, ainsi que le développement de la formation continue.
Vous avez calculé le temps de votre papier, Catherine Pétillon ?
Je vais compter.
Merci beaucoup. Exemple concret, effectivement, pour aller jusqu'à l'abstrait. On est en ligne avec Roger Mansuy, qui est enseignant de mathématiques au lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous paraît principal dans ce rapport, dans l'idée qui est introduite ainsi dans l'enseignement des mathématiques ?
Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il y a des mesures didactiques qui sont précises. On explique ce que l'on veut faire pour l'enseignement des mathématiques, mais il y a aussi une vision d'ensemble de tout le système. On n'est pas simplement en train de dire on va changer des astuces pour enseigner, on va essayer de former des professeurs, on va essayer d'avoir une évaluation différente, on va essayer d'avoir des programmes différents. Donc, on a une vraie approche globale. C'est ça qui ressort de ce
Mais sur le fond, sur l'état d'esprit, sur la philosophie générale.
La philosophie est très pragmatique. On cherche l'efficacité, et d'ailleurs s'inspirer des modèles qui marchent bien, que ce soit la Finlande, que ce soit Singapour, que ce soit des pédagogies alternatives, est quelque chose qui suscite plutôt de l'enthousiasme, l'envie qu'on ne nous donne pas des recettes, qu'on laisse la liberté aux enseignants, mais qu'on essaye de leur fournir des outils de plus en plus efficaces pour que les élèves réussissent.
L'efficacité, ça passe par quoi, selon vous ? Est-ce que c'est ce fameux retour au concret avant d'abstraire, plutôt que le contraire ?
Alors, retour au concret, l'aspect retour donne l'idée qu'on a une vision un peu passéiste. Alors, j'ai l'impression que le rapport est plutôt tourné vers l'avenir. Mais effectivement, pour l'enseignement primaire, commencer avec des choses qui sont plus concrètes.
Exemple.
Puis petit à petit, abstraire, partir de la manipulation, remplacer l'objet que l'on est en train de bouger, que ce soit un cube, un boulier, une règle, que sais-je. On remplace petit à petit par une image qui représente l'objet, puis ensuite par le concept mathématique.
Vous pouvez donner un exemple, par exemple, peut-être plus avancé, de cette méthode pour aborder les notions mathématiques abstraites par des choses concrètes ?
Sans être entièrement abstrait, utiliser des réglettes en plastique de longueurs différentes, c'est-à-dire l'unité, la moitié, le tiers, le quart, pour pouvoir appréhender ce que sont les proportions, pour appréhender ce que sont les fractions, puis petit à petit aller basculer vers l'objet mathématique de fractions, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Et déjà, un certain nombre d'enseignants l'utilisent. L'idée ici, c'est d'essayer de faire une expérimentation à plus grande échelle, de changer de l'initiative de quelques enseignants à passer à quelque chose qui serait efficace à l'échelle d'établissements entiers, d'académies.
Est-ce que efficacité passe avec regain d'intérêt pour les élèves ? Est-ce que c'est peut-être pas forcément tout à fait compatible ?
Alors, j'espère que c'est compatible, qu'il y ait un regain d'intérêt pour les élèves et que ce soit plus efficace. Effectivement, on peut se poser la question de savoir quelle est la causalité et quelle est la conséquence dans ces deux événements. Si jamais les élèves sont plus intéressés, il y a fort à parier que le système sera beaucoup plus efficace. Maintenant, est-ce qu'on peut être efficace sans susciter l'intérêt des élèves ? Le rapport a l'air de dire qu'on a envie de susciter l'intérêt, l'envie pour casser un petit peu cette image des mathématiques austères et pénibles.
Roger Mansuy, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous donc pour parler de ce rapport Villani remis aujourd'hui au ministère de l'Éducation. 12h40, l'actualité à l'étranger. On revient sur cet accès de fièvre du week-end au Proche-Orient avec ce qui est considéré comme la première confrontation ouverte entre Israël et l'Iran sur le théâtre syrien. On a noté que pour la première fois depuis 36 ans, Israël avait perdu un F-16 abattu par un missile syrien. Donc c'était samedi. Les deux pilotes ont été éjectés. Ils sont sérieusement blessés. Peu après, l'aviation israélienne bombardait 12 positions de l'armée syrienne et de ses alliés pro-iraniens dans des systèmes de défense anti-aérienne. Et en Conseil des ministres hier, Benjamin Netanyahou assurait que son pays n'entendait pas changer de stratégie en Syrie, c'est-à-dire empêcher une implantation durable de l'Iran. Les livraisons d'armes sophistiquées au Hezbollah libanais qui est, comme on le sait, allié du président Bachar al-Assad, mais aussi évidemment de Téhéran. On est en ligne avec Étienne Monin à Jérusalem. Bonjour.
Bonjour.
Et les observateurs israéliens donc sont unanimes pour dire ce matin qu'on peut parler d'une première confrontation directe entre les Israéliens et les Iraniens.
Oui, et finalement, après avoir longtemps cherché à se tenir à l'écart, on peut dire aujourd'hui qu'Israël s'est fait rattraper par la façon dont la guerre en Syrie a évolué sur le terrain. En quelque sorte, la politique d'intervention sans conséquence des Israéliens a touché une limite dans laquelle Israël à la fois a perdu sa légendaire invincibilité aérienne et engagé, vous le disiez, donc pour la première fois, une confrontation directe avec les Iraniens. Cette situation complique maintenant la capacité de l'armée israélienne à faire respecter les lignes rouges qu'elle a fixées avec les indications du politique. Ces lignes rouges découlent du conflit en Syrie. Vous les avez citées. Elles sont justifiées par l'implication du Hezbollah dans la guerre et par la crainte d'un enracinement de l'Iran aux portes du Golan. Depuis des mois, les Israéliens mènent donc des raids en Syrie. Ce sont des raids aériens. Le premier ministre Netanyahou a même brisé le secret sur ses opérations en mars dernier. Il a confirmé les interventions et il a fixé ses lignes rouges dans un contexte de tension grandissante. Déjà à l'époque, les Syriens avaient utilisé leur batterie anti-aérienne et Israël avait dû déclencher son système de défense le plus puissant pour sauver l'un de ses avions.
Alors première confrontation donc directe entre les deux pays, mais de part et d'autre, il semble qu'on ne veuille pas forcément pousser plus loin cette confrontation pour l'instant.
Et la ligne a été fixée sans doute ce week-end par l'intervention du président russe. Samedi soir, il a échangé par téléphone avec le premier ministre israélien. Il a appelé à la désescalade tout en préservant clairement ses intérêts. Et ça n'est pas la première fois. La Russie a déjà fait savoir qu'elle soutenait la présence iranienne en Syrie. Ce week-end, elle a soutenu la souveraineté syrienne. Elle a donc à la fois une politique de coopération avec les Israéliens, un désir de ne pas déclencher une guerre qui s'élargirait du côté israélien, mais aussi une politique de soutien aux forces dominantes sur le terrain en Syrie pour accentuer son emprise. La fièvre est donc retombée en quelques heures, mais tout le monde craint maintenant un nouvel épisode. L'Iran est soupçonné de vouloir à nouveau jouer la provocation et les Israéliens peuvent difficilement abandonner leur politique d'intervention pour faire barrage aux armes du Hezbollah.
Étienne Monin, merci beaucoup en direct de Jérusalem. On est en ligne avec Alain Diekhoff, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Bonjour monsieur.
Bonjour.
En fait, tout se passe comme si cette victoire sur Daesh, contre Daesh, laissait un peu la place vide à des affrontements qui deviennent maintenant plus directs sur plusieurs fronts, et notamment donc tout d'un coup ce front israélo-iranien. Est-ce que vous diriez que cette rivalité est ravivée maintenant depuis notamment la reprise ou la manière dont s'est conforté le régime syrien ?
Bah, évidemment, le fait que la guerre avec Daesh soit terminée fait qu'il y a un des acteurs qui n'est plus présent, en tous les cas pas de façon militaire pour le moment, en Syrie. Du coup, bien évidemment, les autres parties impliquées, elles sont nombreuses, ont davantage l'occasion d'éventuellement s'affronter. Surtout, ce qui est en train de se jouer en réalité, c'est évidemment quel sera un petit peu l'état de la Syrie dans les mois, dans les années à venir, bon, avec une victoire du régime qui se profile, mais qui sera certainement pas totale. Et donc, c'est toute la question, finalement, de l'équilibre régional qui découlera de cette nouvelle situation qui est en train de s'esquisser. Et quelque part, cet incident, il faut le lire à travers cette perspective.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'Iran est installé durablement en Syrie, pas seulement avec le Hezbollah, mais aussi en Syrie même ?
Ah ben là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois qu'on a suffisamment d'informations pour dire que, bien évidemment, ils soutiennent le Hezbollah depuis très longtemps et que le régime Assad lui doit évidemment une fière chandelle. Mais on a aussi suffisamment d'informations aujourd'hui pour dire que l'Iran est présent en Syrie via en particulier la force Al-Quds qui est liée aux gardiens de la révolution iranien. Et donc, en effet, je pense que ce qui est derrière cette histoire de drone de samedi et de l'attaque ensuite israélienne, c'est ça qui se joue aussi. C'est-à-dire que, bien évidemment, les Israéliens sont, en tous les cas au niveau du principe, totalement opposés à une permanence de la présence iranienne en Syrie, précisément dans cette après guerre civile, ou en tous les cas ce qui est en train de se dessiner en Syrie. Et cette perspective, bien évidemment, les inquiète énormément.
Alors, il y a quand même un jeu pour terminer sur cette situation post, ce que vous appelez guerre civile ou post-guerre contre Daesh, où il y avait une sorte de fixation un peu des combats dans cette région. Et maintenant, on voit bien les puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte éventuellement, essayer de tirer leur épingle de ce jeu, puisqu'il y a des marges de manœuvre et peut-être des risques. Et puis derrière, les États-Unis et la Russie qui continuent, elles, de vouloir jouer un rôle dans un éventuel règlement global. Finalement, qui est-ce qui a la main dans cette situation ?
Bah, disons au niveau des puissances externes, si je puis dire, parce qu'elles ne sont pas totalement externes puisqu'elles sont aussi présentes via les différentes coalitions, mais à l'évidence la Russie est celle qui compte le plus. Elle est un peu sur le fil du rasoir parce qu'elle essaye de ménager un petit peu toutes les parties. Elle a des relations étroites, on le sait évidemment, avec le régime syrien, avec l'Iran, en même temps des relations relativement suivies avec Israël, et elle entend les maintenir. Elle joue un rôle, à mon avis, tout à fait central et elle continuera à le faire. Les États-Unis, c'est une position un peu différente parce que dans le fond, Obama, même si les États-Unis font partie de la coalition anti-Daesh, les États-Unis se sont quand même, à l'époque d'Obama, largement désengagés politiquement. Et ce que Trump va essayer de faire, c'est quelque part essayer de revenir pour avoir aussi, évidemment, son mot à dire sur la situation dans les qui va sortir des conflits en Syrie.
Alain Diakhoff, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. D'ailleurs, je signale que le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu en Russie. Nous sommes deux semaines après la visite du premier ministre israélien Netanyahou, donc également en Russie, pour s'assurer auprès de Poutine du soutien de Moscou face à Washington, qui a reconnu Jérusalem comme capitale. L'Égypte poursuit, elle, son offensive antiterroriste lancée vendredi dans et autour du Sinaï, où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. 26 djihadistes ont été tués, 126 autres arrêtés. C'est ce qu'annonce l'armée égyptienne ce matin. Opération baptisée Sinaï 2018, campagne militaire lancée à un mois et demi de l'élection présidentielle qui mobilise notamment l'aviation et la marine. Et puis le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est à Bagdad pour discuter avec les responsables irakiens de la reconstruction, de la stabilisation du pays après la défaite militaire du groupe État islamique. L'administration Trump esquisse, elle, sur le plan intérieur maintenant, les grandes lignes de son plan d'investissement. On parle de 1500 milliards de dollars en faveur des infrastructures, dont un grand nombre, il est vrai, aux États-Unis, ont un besoin urgent d'être rénovés. Budget qui va donc inclure 200 milliards de dollars consacrés aux routes, aux autoroutes, aux ponts, aux infrastructures, qui sont tout à fait cruciales, évidemment, pour l'économie des États-Unis. L'administration Trump compte utiliser, en fait, ces 200 milliards comme effet de levier, en fournissant des garanties d'emprunt, par exemple, des prêts directs et autres mesures incitatives. Et puis, l'État, les investisseurs privés vont être sollicités pour contribuer les États, donc, et les investisseurs privés vont être sollicités pour contribuer aux 1300 milliards restants. Ça fait quand même beaucoup d'argent qui reste à trouver, Annabelle Grelier. Il y a longtemps qu'on parlait de cette nécessité de rénover les infrastructures américaines. Bon, Trump peut-il maintenant vraiment le faire ?
Oui, le mauvais état des infrastructures n'est pas une nouveauté. Depuis longtemps, l'Association des ingénieurs civils américains tire la sonnette d'alarme et dès 1998, elle attribue ainsi aux infrastructures la note D pour déficiente. Elle aussi chiffrée à quelque 2000 milliards de dollars sur 10 ans les besoins d'investissement pour les moderniser. Mais si rénover les infrastructures est une promesse de campagne de Donald Trump, pendant des années, l'administration Obama a, elle, tenté de faire approuver des plans de rénovation des transports publics, mais elle s'est heurtée aux élus républicains du Congrès, notamment à l'approche des élections. Car évidemment, un plan d'investissement crée du déficit budgétaire. Il faut trouver de quoi le financer. Par ailleurs, le financement des infrastructures aux États-Unis est un véritable casse-tête. Aucune infrastructure n'est financée de la même manière. À titre d'exemple, les aéroports sont gérés par des investisseurs privés. Le système d'autoroutes reliant les États a été construit par l'État fédéral, mais son entretien est maintenant essentiellement du ressort des États, tandis que la construction construction et l'entretien des routes secondaires revient au comté. Si la totalité des infrastructures ont besoin d'une autorisation du gouvernement fédéral, ils jouent un rôle mineur dans leur financement, environ 14%.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de relance keynésienne pour un président dont c'est pas vraiment la doctrine économique?
Trouver 200 milliards dans le budget fédéral alors que le déficit public va déjà se creuser par la baisse des impôts entérinée fin 2017, ce serait déjà la marque de la fin des règles d'austérité qui prévalaient depuis 2011. Les experts prédisent déjà une remontée des déficits annuels permanents au-dessus des 1 000 milliards de dollars, gonflement de la dette et du déficit public, une bombe à retardement accuse les démocrates. La conception de l'économie pour Donald Trump est basée sur le principe de la dynamique. Les coupes d'impôts nourrissent la croissance qui elle-même génère plus de revenus, donc plus de recettes pour l'État. Pour que tout le monde y adhère sur les infrastructures, il y rajoute le principe de réalité. Les engorgements routiers coûtent pour le seul secteur des transports routiers plus de 60 milliards de dollars chaque année. Mais qui va payer ce plan d'infrastructure? Eh bien, le scénario privilégié jusqu'alors par l'administration Trump est un partenariat en effet public-privé. L'État injecte 200 milliards de dollars, lève par ailleurs les freins administratifs sur les permis de construire notamment et espère ainsi susciter un levier parmi les investisseurs privés. D'autres options existent, mais là c'est plus périlleux politiquement parlant, mettre à contribution les usagers avec des péages, le Texas expérimente déjà la formule, ou encore augmenter la taxe fédérale sur le carburant qui n'a pas été réévaluée depuis 1993. C'est une proposition des démocrates. Avec Trump, ça va être compliqué.
Annabelle Grolier, merci beaucoup. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Carlo Strenger. Bonjour.
Bonjour.
Professeur de psychologie à l'Université de Tel Aviv. Psychanalyste aussi. Alors peut-être que vous savez ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, vous, parce que on voit des mesures qui finalement sont parfois difficiles à étiqueter, finalement, notamment par exemple sur ce plan de relance, tout d'un coup, des investissements aux États-Unis.
Écoutez, j'ai pas la moindre possibilité de savoir ce qui se passe dans sa tête, entre autres parce que je pense qu'il ne le sait pas lui-même. Il est un homme extrêmement impulsif. Il n'a pas la moindre vraiment stratégie à long terme. Nous le voyons exactement ici. En principe, la régénération des infrastructures aux États-Unis est une nécessité existentielle depuis des décennies. Je pense que c'était une des deux très très grandes fautes d'Obama qui a insisté à commencer à travailler sur Obamacare. Au lieu de ça, s'il avait fait ceci, il avait généré quelques millions de places de travail et il avait vraiment donné un impetus.
Mais alors pourquoi on aurait trouvé bien si Obama le fait, si Trump le fait, on le trouve pas
dans le cas de Trump, c'est très simple. Il déjà maintenant, du moment que si vous regardez la catastrophe qu'il est en train de faire avec la réduction des impôts et comme vous avez dit, cette énormité de dette de l'État. Alors le financement, il est plus ou moins fictif. C'est des idées qui sonnent bien.
Et il compte sur quoi? Il compte sur le fait que
il compte,
ça va s'arranger.
Écoutez, il ne faut jamais oublier qu'une chose. Trump se présente comme le grand businessman. 90% des business de Trump ont échoué. Il était un génie à dire aux banques, vous pouvez pas me laisser tomber parce qu'autrement ça sera même plus cher. Et c'est ça son seul génie. Et de ce point de vue-là, je suis très pessimiste.
Carlo Strenger, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de la Grande Table. Un mot d'abord de l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui est jugé en appel à partir de cet après-midi pour avoir dissimulé pendant des années des comptes à l'étranger. Il avait été condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment. C'était il y a 2 ans, enfin en 2016. Devant la cour d'appel, les compteurs sont donc remis à zéro maintenant. Monsieur Cahuzac risque une peine de 5 ans de prison et plus de 375 000 euros d'amende. Antoine Maret, il refuse évidemment, Jérôme Cahuzac, dans sa défense, qu'on le juge pour l'exemple, mais il est pourtant devenu cet exemple et c'est bien l'enjeu de ce procès en appel.
En première instance, Jérôme Cahuzac a été condamné à une peine lourde, 3 ans de prison ferme. En partie pour l'exemple, le procureur avait considéré que l'ex-ministre du budget avait brisé un lien entre les Français et l'État. Le président du tribunal avait motivé cette peine en accusant Jérôme Cahuzac d'avoir jeté le discrédit sur les hautes autorités de l'État. Sa tentative de justification par un financement occulte des activités politiques de Michel Rocard n'avait pas convaincu le tribunal. Face à cette lourde peine en première instance, qui ne lui laissait pas espérer un aménagement, le faisant échapper à la prison, Jérôme Cahuzac a donc décidé de faire appel, contrairement à son ex-épouse qui a écopé de 2 ans de prison ferme pour une vie enracinée dans la fraude, selon le jugement. L'enjeu est de taille pour l'ancien ministre. Son objectif est d'obtenir une peine qui ne soit pas supérieure à 2 ans ferme, c'est-à-dire une peine qui le dispense de l'incarcération grâce à un aménagement.
La météo, un ciel variable, généralement des nuages sur les Alpes du Sud et la Côte d'Azur qui vont apporter quelques averses, de la pluie, même de la neige à basse altitude, donc sur les reliefs du Sud-Est. Température 2 à 13 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.